Ce soir, on voit que quand on est vraiment mauvais à quelque chose, il vaut mieux arrêter les frais, au risque de faire pitié même aux démons au fin fond de l'enfer. La créature du soir a beaucoup en commun avec ces touffes de poils que vous enlevez du siphon de la douche. Vous écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 58, Coach Divin, où on reprend l'histoire des Pandava au moment où ils ont tout perdu. Si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous recommande de d'abord passer par les épisodes 55 et 56. Pour les autres, nous en étions arrivés au moment où, naïvement, Yudhishthira pense pouvoir faire confiance à son cousin, en pariant sa femme, ses frères et son royaume dans une partie de dés, truquée évidemment. Il avait alors été condamné à 12 années d'exil, et une 13e à passer incognito sous peine de repartir pour un exil de 12 ans. Bonjour tout le monde, c'est Lloyd du futur qui vous parle depuis le montage de cet épisode, enregistré depuis déjà 3 mois. Je vous parle plus en détail de ça à la fin de l'épisode, mais globalement, j'ai été pas mal malade et mon rythme a dû changer, d'où l'absence de sortie pendant quelques temps. Maintenant, je vous laisse profiter de la suite des aventures des Pandava. Les cinq Pandava et Draupadi avaient quitté Hastinapura depuis quelques jours. Ils avaient espéré que leur exil se ferait discrètement, mais le peuple les adulait, et une foule s'était constituée à leur suite dès leur sortie du palais. Paysans, artistes, guerriers, mais principalement une nuée de brahmanes les accompagnaient. Yudhishthira s'en trouvait soucieux, car il savait que ses frères et lui partaient dans des contrées reculées, dangereuses, et il doutait qu'ils puissent nourrir toutes ces bouches. Un vieux brahmane devina ses inquiétudes et s'approcha du roi déchu. Il lui rappela que les besoins du juste sont le souci des dieux, et que s'il demandait au soleil, qui règne sur la nourriture, de l'aider, il y consentirait certainement. Yudhishthira s'installa alors en position de méditation, et inlassablement, il récita les 108 noms du soleil, jusqu'à ce que ce dernier apparaisse devant lui. « J'ai entendu tes inquiétudes, ô roi. Prends ce vase de cuivre. Chaque fois que vous aurez faim, il débordera de fruits, de légumes et de racines. Jamais vous ne souffrirez de la faim lors de cet exil injuste. » Rasséréné, Yudhishthira entraîna sa suite dans les terres sauvages. Il se montrait digne de son père, le dieu de la vertu, et ne gardait pas de rancœur à l'encontre de son cousin. Mais ses frères et Draupadi n'oubliaient pas les insultes des Kaurava. Constamment, ils priaient leur frère aîné de sortir de sa torpeur. Celui-ci leur répondait que la justice est l'apanage des dieux et que le seul pouvoir de l'homme est de ne pas laisser son esprit être empoisonné par la haine. Un jour, oubliant sa fougue habituelle, Bhimasena lui répondit ainsi. Mon frère, il est noble de ta part de vouloir pardonner à nos cousins. Même s'ils ont triché, tu t'es soumis volontairement aux parties de dés qui nous ont menés à notre perte, et nous devons subir cet exil comme il en a été décidé. Mais si tu penses qu'à son terme, Duryodhana nous rendra nos terres, ta sagesse est folie, et ta noblesse apathie. Nous aurons à nous battre, frère, et nous devons être prêts. C'est sous ton règne que le peuple prospère, tu te dois à lui. Ces mots, enfin, atteignirent Yudhishthira. Mais comment espérer vaincre Duryodhana, qui aurait dans une guerre l'appui de Bhishma, Drona, Kripa et de tant d'autres héros? Sur quel soutien pourraient compter les Pandava exilés? À cet instant, le sage Vyasa apparut et rassura le roi. Arjuna, n'était-il pas le brave parmi les braves, le fils du roi des dieux lui-même? En son état, Arjuna n'est pas prêt à affronter les Kaurava, mais il le saura. Il possède déjà Gandiva, l'arc céleste offert par Agni. Il doit maintenant rencontrer Shiva, le destructeur, qui vit au sommet de l'Himalaya. Il fut fait selon les mots du grand sage. Arjuna fit ses adieux à ses frères et à sa femme et s'en alla seul vers la reine des montagnes. Bien des jungles et des collines se trouvèrent sur son chemin avant qu'il ne parvienne au pied de l'Himalaya. Juste avant qu'il ne pose enfin le pied sur ses pentes rocheuses, une voix l'arrêta. « Nul ne gravit cette montagne, sinon les ascètes et les brahmanes. Que viens-tu faire ici, armé comme un guerrier ? Laisse tes armes si tu veux avancer. Que la paix soit ton seul guide. » Arjuna remarqua un étrange ermite assis dans la position du lotus, sa peau rougeâtre couverte de boue. « La paix sied au sage, vieil homme, mais l'injuste doit recevoir son châtiment. Tant pis pour la paix, j'en fais le deuil, et je ne poserai mes armes que lorsque les Kaurava auront reçu ce qu'ils méritent. » À son étonnement, l'ermite sourit et se leva. Sa peau fripée glissa de ses épaules comme un manteau, révélant Indra dans toute sa furieuse gloire. J'aime ton caractère, mon fils. Tu es digne de rencontrer Shiva, le plus puissant des immortels. Il t'aidera à vaincre les Kaurava. Lorsque tu l'auras rencontré, reviens vers moi, et je m'assurerai que les trois mondes tremblent face à toi. » Et le dieu disparut. Arjuna alla alors se purifier à une source proche et entama une formidable ascèse. Debout sur le gros orteil de son pied droit, sans appui, il répéta jour et nuit les noms du destructeur, celui qui tient le trident dans sa main droite. Il ne se nourrissait que de fruits et de feuilles tombés au sol. Le premier mois de son ascèse, il ne les ramassait que tous les 3 jours. Le second, tous les 6. Le troisième mois, il ne se nourrissait que toutes les 2 semaines. Et au 4e, sa seule nourriture était devenue le vent. Face à sa dévotion, la montagne tremblait et émettait de lourdes vapeurs. Les brahmanes qui y vivaient prirent peur et allèrent au sommet prier Shiva d'intervenir. La force que cet étranger rassemblait par son ascèse serait bientôt suffisante pour détruire le monde des hommes. Celui qui porte le trident se contenta de sourire et déclara qu'il irait à la rencontre du fils de Pandu. Shiva dévala la montagne comme une boule de feu et atterrit dans la forêt, non loin de là où Arjuna méditait. Il avait pris l'apparence d'un simple chasseur, mais une aura dorée émanait de son corps. Au moment où le dieu émergeait des bois, un terrible démon s'apprêta à se jeter sur Arjuna, sous la forme d'un sanglier géant. Le Pandava banda Gandiva et lui décocha une flèche en plein front. Shiva décocha en même temps et frappa le sanglier au flanc. Le démon s'effondra, mort. Furieux, Arjuna fit face au nouvel arrivant. « Qui es-tu ? Qui pense pouvoir bafouer ainsi toutes les règles de la chasse ? Cette proie était mienne, et cet affront sera ton dernier. » Arjuna décocha une nouvelle flèche, cette fois en direction du chasseur. Ce dernier sourit, et le trait tomba à ses pieds, brisé. Il banda alors son propre arc, et une pluie de flèches déferla sur le fils de Pandu. Il parvenait à peine à les briser de ses traits. Quand l'assaut s'interrompit, Arjuna réalisa que ses carquois, pourtant inépuisables, étaient vides. Il se jeta vers l'inconnu, son arc comme une masse, mais l'autre le cueillit de ses mains comme un jouet dans celle d'un enfant. Arjuna dégaina son épée, qui se brisa au premier coup. Il ne lui restait que ses poings, mais ses coups, qui s'abattaient pourtant comme des marteaux, ne semblaient pas atteindre son adversaire. C'est alors qu'une pensée lui traversa l'esprit. Reculant d'un bond, il ramassa une poignée d'argile et la façonna en une petite poupée, qu'il imprégna des noms du destructeur. Il réalisa un petit collier de fleurs et le passa au cou de la poupée. Aussitôt, un collier identique apparut sur la poitrine du chasseur. Arjuna tomba alors à genoux et rendit hommage à Shiva, qu'il reconnut enfin. Satisfait du courage du guerrier, le dieu lui révéla sa véritable apparence. Un autre que toi aurait fui, Arjuna. Tu es bien le brave parmi les braves. Je vais t'offrir la plus puissante de mes armes, le projectile Pachupata. Dans une autre vie, tu fus le sage céleste Nara, l'incarnation de Vishnu. Avec ton ami Narayana, tu invoquas jadis cette arme pour détruire le roi des démons, Naraka. Aujourd'hui, ces deux incarnations du Dieu suprême vivent en toi et en Krishna. Et la tâche qui vous attend n'est pas moindre. Retourne voir Indra dans sa résidence céleste. Il t'y préparera. Avant de le quitter, Shiva enseigna à Arjuna comment se servir de l'arme divine, comment la lancer à la main, par la pensée ou de son arc. Puis, il disparut. Arjuna se trouvait seul depuis quelques instants seulement, lorsque Varuna, le dieu protecteur des eaux, apparut devant lui. Derrière lui se massaient les régiments de sirènes et de naïades. Du sud arriva Yama, le dieu de la mort, entouré de nuées d'esprits défunts. Les autres résidents du ciel les rejoignirent, et chacun offrit son arme de prédilection aux Pandavas. Le dernier à se manifester fut le roi des dieux. Indra félicita son fils et l'invita à le rejoindre dans sa capitale céleste. Ils s'élevèrent ensemble vers les cieux à bord du char royal. La cité d'Indra n'avait rien de comparable avec les plus fabuleuses villes des hommes. Les tours s'élevaient sans le moindre regard pour la gravité. Le marbre étincelait comme du diamant. Et l'architecture était si audacieuse et harmonieuse qu'aucune langue ne permettait d'en décrire la nature. Arjuna y passa 5 années, pendant lesquelles chaque dieu lui apprit à manier avec brio son arme titulaire. Indra insista également pour que le seigneur du peuple des nuages soit le maître de musique et de danse personnel de son fils. Le Pandava faisait honneur à son nom et maîtrisait chaque discipline avec un art divin. Mais Duryodhana et l'exil de ses propres frères ne quittaient pas son esprit, et il restait soucieux en tout temps. Indra s'en rendit compte et voulut changer les idées de son fils. Dans sa capitale résidait la première et la plus belle de toutes les nymphes. Le roi des dieux l'entretint si bien à propos d'Arjuna que la nymphe elle-même se prit de passion pour lui et alla lui rendre visite un soir. Les parfums les plus délicats nimbaient sa peau de soie, et des étoffes somptueuses la paraient de telle sorte qu'elle ne cachait rien de ses atours. Arjuna rougit en la voyant arriver, et encore plus en entendant les mots d'amour qu'elle lui susurra. Mais Draupadi, son épouse, se glissa dans ses pensées, et il repoussa la nymphe. Par 3 fois, elle revint à l'assaut, ses charmes toujours plus tentants, et par 3 fois, Arjuna la repoussa. Son orgueil blessé comme jamais auparavant, la rage la saisit alors, et elle partit furieuse, crachant une malédiction au fils de Pandu. Tu mèneras une vie sans dignité, eunuque danseur parmi les femmes. Inquiet de la malédiction, Arjuna se confia à son père, qui le rassura aussitôt. Déjà, par tes faits d'armes, tu surpassais les plus grands héros. Tu surpasses désormais aussi les plus nobles sages par ta volonté. N'oublie pas que votre exil doit se conclure par 1 année cachée sous des déguisements. Cette malédiction se révélera alors une bénédiction, et elle s'estompera avec votre injuste châtiment. Indra remit alors à son fils sa propre conque de guerre, avant de le renvoyer parmi les mortels. Pendant ce temps, les 4 Pandava et Draupadi vivaient de plus en plus mal leur exil, en particulier la longue absence d'Arjuna, dont il n'avait aucun moyen de savoir quand et si elle s'achèverait. 3 ans après le départ de leur frère, les fils de Pandu étaient partis à sa recherche. Ils avaient traversé des jungles où le soleil ne s'aventure pas, et des montagnes si hautes qu'elles sont oubliées par les vents, mais n'avaient trouvé nulle trace d'Arjuna. Plus de 5 ans étaient passés désormais. Les Pandava étaient installés sur les rives du lac Dvaitavana, quand le ciel se teinta de pourpre au beau milieu de l'après-midi. Une comète fendait les cieux et fonçait droit sur eux. C'était Arjuna, à bord du char de guerre d'Indra, qui revenait enfin vers sa famille. Ses frères et leur épouse acclamèrent son retour avec un soulagement sans pareil. Et lorsqu'ils apprirent qu'Arjuna revenait équipé des 15 armes divines, ils l'implorèrent de leur faire une démonstration de leur pouvoir. Arjuna ne se fit pas prier. Gandiva dans une main, la masse invincible de Yama dans l'autre, il monta sur son char. Il était ainsi le reflet parfait d'Indra lui-même. La terre trembla, les montagnes s'effondrèrent, les plaines se soulevèrent, d'immenses vagues vinrent dévaster les rivages, loin, dans les régions côtières, lorsqu'Arjuna déchaîna ses armes. Les démons s'enfuirent au plus profond des enfers, et les dieux accoururent, même Brahma et Shiva.
Rappelle tes armes avant qu'elles ne touchent leur cible, Arjuna, lança Yama. Les armes divines ne peuvent être utilisées impunément. Leurs forces sont suffisantes pour détruire les trois mondes.
Aussitôt, Arjuna fit revenir les projectiles divins dans sa main, et le monde retrouva son calme. Mais le cataclysme du lac de Vaitavana ne passa pas inaperçu, et les espions de Duryodhana l'avertirent bien vite du lieu de retraite de ses cousins. Dès que la nouvelle parvint à Hastinapura, Shakuni, l'oncle vicieux des Kaurava, encouragea Duryodhana à leur rendre visite.
Imagine l'humiliation des Pandava, ô roi, quand ils te verront au fait de ta gloire, ton infinie noblesse rayonnant sur la misère qui est la leur, couronnée des terres qui furent leur empire.
Il ne fallut, évidemment, pas beaucoup plus pour convaincre Duryodhana, qui, sous le prétexte d'une chasse, rassembla une véritable armée. 8 000 chars, 30 000 éléphants, 9 000 cavaliers et des milliers de fantassins entouraient Duryodhana et ses 99 frères quand ils parvinrent au lac de Vaitavana. Même leurs épouses les accompagnaient. Mais un autre groupe s'était déjà installé là. Dans leur bêtise, les Kaurava ne reconnurent pas le peuple des nuages et les provoquèrent. La bataille fut rapide. En quelques instants, l'immense armée des Kaurava fut anéantie, et même Karna, le valeureux fils du soleil, dut fuir pour sa vie. Les 100 Kaurava n'eurent pas cette occasion. Avec leurs femmes, les habitants des nuages les ligotèrent et les entraînèrent vers les cieux. Terrifié, Duryodhana en fut réduit à appeler ses cousins au secours, pendant que ses frères geignaient et couinaient. Yudhishthira reçut l'appel depuis l'autre rive du lac et envoya ses 4 frères au combat. Les Pandavas sautèrent joyeusement sur leurs chars et coupèrent la route au peuple des nuages. Un combat sanglant s'engagea, qui tournait mal pour les habitants des nuages, jusqu'à ce que leur roi arrive et réussisse à calmer son ancien élève. Il expliqua alors à Arjuna le plan des Kaurava pour les humilier et comment il avait envoyé ses guerriers pour les en empêcher. Les Pandavas remirent le sort de leur cousin entre les mains de leur frère aîné, qui décida malgré tout de les laisser rentrer chez eux. Duryodhana venait se moquer de nous, et voilà que c'est lui qui se trouve humilié. La honte qu'il doit porter sera un châtiment suffisant. Et en effet, si les Kaurava filèrent chez eux ventre à terre, Duryodhana ne fit que quelques lieues avant de se laisser choir. Il se lamentait, pleurait, s'arrachait les cheveux. La volonté de vivre l'avait quitté, et pendant quelques jours, aucun de ses frères ni de ses conseillers ne put le détourner de son projet. Il avait décidé de se laisser mourir de faim. Mais, aux enfers, les démons n'étaient pas du tout résolus à laisser se perdre un si coûteux investissement. C'était eux, il y avait longtemps, qui avaient appelé de leur dévotion la naissance de cet enfant, et les choses s'engageaient trop bien pour le laisser gâcher sa vie. Après de longs rituels, ils parvinrent à appeler Duryodhana aux enfers, pour lui remonter le moral. Pas un poète mortel n'aurait eu plus de verve cure les démons pour louer le jeune roi. Ils lui firent voir que la victoire était proche, que déjà l'esprit de Naraka, le roi des démons, possédait Karna, que des légions d'entre eux donnaient de la force à ses frères, brouillaient l'esprit du vieux roi Dhritarashtra, de Bhishma, Drona et Kripa, ses conseillers, et le rendaient lui, Duryodhana, invincible. Empli d'une rage nouvelle, le Kaurava revint dans le monde des mortels, bien décidé à en finir avec ses cousins.
«
Entre-temps, l'exil touchait presque à sa fin, et les Pandava n'avaient maintenant plus qu'à passer un an déguisés pour regagner leur empire. À la cour du roi des Matsya, on venait de voir débarquer six remarquables nouveaux arrivants, dont le moindre n'était pas le nouveau maître de musique et de danse de la princesse. L'eunuque était arrivé presque en même temps que cinq autres jeunes gens sollicitant un emploi à la cour. Ils avaient écopé de postes aussi divers que coiffeuse, cuisinier, écuyer ou bouvier, et l'un d'eux, un brahman qui avait servi le roi Yudhishthira avant son exil, était même devenu un des conseillers du roi. Personne n'avait reconnu les Pandava, ni leur épouse Draupadi, même si sa beauté ne passait pas inaperçue. Si peu, d'ailleurs, que le frère de la reine, le commandant en chef des armées de Matsya, tomba fou amoureux d'elle. Draupadi tenta de le repousser, mais l'homme finit par la prendre de force. Elle échappa de justesse à son étreinte et s'enfuit dans les cuisines où œuvrait Bhimasena. Quand son épouse lui eut rapporté les actes du commandant, il entra dans une colère noire. Du célèbre chef des armées Matsya, qu'aucun homme n'aurait osé défier, on ne retrouva qu'une mare rougeâtre. L'exploit se produisit quelques jours avant la fin de la 13e année, mais malheureusement, elle attira aussitôt l'attention de Duryodhana. Il devina que les Pandava se cachaient chez leur ancien allié, et que si l'honneur de ce dernier était outragé, il serait forcé de lui venir en aide. Il élabora alors un plan avec Shakuni pour débusquer les fils de Pandu. Ce dernier, à la tête d'une petite troupe, irait voler les troupeaux des Matsya, pendant qu'une large armée menée par Duryodhana profiterait de la diversion pour envahir le royaume. Shakuni, persuadé de n'avoir affaire qu'à une poignée de bouviers, avança sans prudence. Mais les bouviers en question se défendirent férocement, et l'un d'eux parvint à s'enfuir pour donner l'alerte. Alors que le roi rassemblait ses forces, on vit avec ahurissement le sage brahman, le cuisinier Pato, le frêle écuyer et le timide bouvier s'armer en hâte, et se révéler étonnamment adroits aux rênes d'un char de guerre. Avant même que le gros de l'armée ne les eût rejoints, les quatre serviteurs avaient décimé les troupes de Shakuni et récupéré les troupeaux. Le roi les félicita chaleureusement, toujours sans reconnaître ses anciens alliés, et tous passèrent la nuit sur place. Duryodhana, à la tête de l'entièreté des forces des Kaurava, flanqué des célèbres conseillers de son père, en profita pour attaquer par l'autre côté et dérober le reste des troupeaux avant de s'enfuir. Tous les courtisans se précipitèrent vers le prince Uttara, dont son père avait si souvent vanté les mérites guerriers. En bâillant paresseusement, le prince annonça qu'il pouvait en effet arrêter l'armée des Kaurava de quelques traits, mais qu'il n'avait malheureusement pas de cocher pour le mener au combat. Draupadi, qui se trouvait parmi les courtisans, lança alors que l'eunuque Brihanala avait autrefois été le cocher d'Arjuna lui-même. Ébranlé, le prince ordonna d'aller le chercher, persuadé qu'un eunuque perdrait courage face aux troupes ennemies et qu'il pourrait rentrer au palais en blâmant son cocher. Il fut un peu moins sûr de lui en voyant le maître à danser révéler la musculature d'un tigre en ôtant ses douces étoffes et revêtir une armure comme s'il en avait porté toute sa vie. D'une voix rauque qui n'avait plus rien de celle de l'eunuque, Arjuna lança les chevaux vers le combat. Bientôt, ils firent face aux troupes des Kaurava. On devinait des forêts de pics derrière les lignes infinies d'éléphants de guerre. Le grondement des sabots de la cavalerie laissait croire que tous les démons de l'enfer remontaient à la surface à cet instant, et Drona et Kripa se tenaient aux côtés du roi, auréolés d'une aura funeste. Le maître de la mort, Bhishma lui-même, les accompagnait. Uttara sauta du char en pleurant. Arjuna lui cria de revenir, qu'il était plus noble de mourir au combat que de le fuir lâchement. Mais, étrangement, cela ne fit que faire courir plus vite le prince. Avec un soupir, le Pandava descendit alors de son char et empoigna Uttara par les cheveux pour le traîner à la place du cocher. « Je me battrai, espèce de pleutre, mais tu mèneras mon char au combat. Et avant tout, passe par l'arbre près duquel on brûle les morts. C'est là que se trouvent mes armes. Les tiennes sont trop petites pour moi. » Uttara fit comme on le lui ordonnait, car il commença à craindre le poing d'Arjuna plus que les traits des Kaurava. Entre les racines de l'arbre reposaient de discrets paquets de peau. Quand Arjuna les déballa, la lumière des planètes étincela de Gandiva, et Uttara reconnut enfin le héros. Il retrouva son courage et mena sans faillir le char au devant des ennemis. Les Kaurava firent pleuvoir une nuée de flèches sur le char, mais Gandiva en main, Arjuna brisa chacune de ses propres traits. Il empoigna alors la masse d'armes de Yama et ouvrit une brèche dans les lignes adverses jusqu'aux troupeaux enlevés. Sans que les Kaurava ne puissent s'opposer à lui, il retraversa leurs rangs, emmenant les troupeaux et les dirigea vers la capitale. Uttara fit alors faire demi-tour au char pour faire à nouveau face aux Kaurava. Le barrissement des éléphants sonna comme le tonnerre alors que les généraux ordonnaient enfin la charge. Les armes d'Arjuna firent des ravages jusqu'à ce qu'ils saisissent Devadatta, la conque de guerre d'Indra. Sa clameur étourdit l'armée tout entière et Arjuna se replia vers la capitale des Matsya. Quand les Kaurava reprirent leurs esprits, le fils de Pandu était déjà loin.
« Ce guerrier était Arjuna !» s'exclama Duryodhana. « Lui seul peut manier Gandiva, l'arc d'Agni. »
Il s'est démasqué. Ses frères et lui repartiront pour un exil pendant 12 autres années.
« D'après le calcul exact, » répliqua Bhishma, « l'exil des Pandava est déjà arrivé à son terme. Cette campagne est une faillite. Nous avons subi de nombreuses pertes. « Rentre chez toi, Duryodhana, concède ta défaite et rends aux Pandava ce qui leur est dû. » Arjuna revint à la capitale en même temps que le roi et ses troupes. Les 5 Pandava se présentèrent à lui sous leur vrai nom et furent reçus avec les honneurs qui leur étaient dus. Les célébrations durèrent plusieurs jours avant que les Pandava ne regagnent leur capitale d'Indraprastha. Ils rentraient en souverain dans leur terre. Leur exil était terminé.
Et c'est à nouveau l'œil du futur qui vous parle depuis le montage.
Je vais revenir rapidement sur l'absence de sortie de ces derniers mois. Tout d'abord, il y a eu la pause d'été, comme d'habitude, histoire de prendre de l'avance pour la suite et de me reposer un peu. Cette pause a été allongée par quelques événements imprévus, comme un changement de job ou un déménagement juste avant notre mariage avec Biliana. Et depuis le début du mois d'octobre, en fait, j'ai simplement été malade, presque en continu. Ces soucis sont derrière moi maintenant, et le podcast peut donc reprendre. Mais il reste la question du rythme. Quand j'ai commencé Compte des Soirs Perdus, j'étais un étudiant en confinement. Pas de problème à sortir un épisode par semaine. J'ai dû passer à un épisode toutes les 2 semaines en commençant à travailler en temps plein, mais j'arrivais encore à y consacrer 2 heures tous les matins en me levant à 5h30. Le problème, c'est que maintenant cette planche horaire-là est consacrée au transport. Et il va falloir que je trouve un moyen de réorganiser mon emploi du temps. Pour vous donner une idée, un épisode, ça représente entre 30 et 40 heures de travail et parfois beaucoup plus. J'ai toujours accordé de l'importance à rester le plus fidèle possible aux sources, ce qui implique beaucoup de recherches et la majorité des textes que je trouve sont en anglais, ce qui n'est pas un problème, en espagnol, ce qui commence à l'être, et en ancien français ou en latin, ce qui ne me simplifie vraiment pas la vie pour le coup. Je ne sais pas encore où je vais trouver ce temps, même si je sais que je le ferai, et je préfère donc ne pas faire de promesses actuellement sur le rythme des sorties. Tout ça m'amène donc à Tipeee. Je remercie encore infiniment les tipeurs et les tipeuses qui soutiennent déjà l'émission et permettent notamment d'engager un illustrateur pour les pochettes des épisodes et d'investir dans du matériel de qualité. Sans vous, ce serait absolument pas possible. Et pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Tipeee, c'est une plateforme de dons où vous pouvez soutenir les projets que vous aimez pour le montant que vous souhaitez, en échange d'un accès, dans mon cas, à des épisodes bonus et des histoires personnalisées. Si seulement un auditeur ou une auditrice sur 100 donnait 1 euro par mois, ce serait déjà suffisant pour que je me permette de passer à mi-temps et que je sorte 3 voire 4 épisodes par mois, ce qui serait absolument génial. En tout cas, pour l'instant, je vous laisse découvrir la créature du soir, et je vous dis à la prochaine fois. Dans les maisons où le plancher reste humide trop longtemps, on dit que peut surgir Keiukegen, un yokai dont on ne distingue qu'une indéfinissable touffe de poils. Quand il apparaît, les habitants de la maison ont tendance à tomber malades, mais certains pensent qu'il n'est pas à l'origine de la maladie. Au contraire, il viendrait avertir les familles de laisser un peu plus entrer le soleil dans leur demeure, au risque d'attirer les maladies. Comme souvent avec les yokai, sa nature dépend du regard qu'on veut poser sur lui. C'est déjà tout pour ce soir. Conte des Soirs Perdus est une création de Lloyd et Biljana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. N'hésitez pas à venir nous laisser votre avis ou quelques étoiles, ça fait une énorme différence dans la diffusion du podcast, et ça fait toujours plaisir. La prochaine fois, on termine enfin la saga du Mahabharata, avec la guerre la plus épique que vous ayez vue, et la fin de l'âge des héros.